Bien, nous allons reprendre cette série de cours sur les jardins paysages. Lors des deux dernières leçons, j'avais montré en quoi les jardins de polyculture des Indiens Atchouars de la Haute-Amazonie en Équateur pouvaient être vus comme des transfigurations in situ, à savoir des images d'autres réalités que leur matérialité organique ou leur fonction nourricière. Dans le prolongement de mes développements antérieurs, j'avais d'abord montré que si la forêt prend aux yeux des Atchouars l'apparence d'un jardin cultivé par un esprit du nom de Chakaim, c'est parce qu'ils ont conscience que leurs activités horticoles notamment ont une incidence sur la composition et sur la distribution des espèces végétales en forêt, sans que pour autant cet effet ait été recherché en tant que tel. Chakaim, cet esprit qui cultive la forêt, est donc le symptôme de cette idée que la forêt, loin d'être un espace sauvage, est en réalité un lieu façonné par des actions intentionnelles. J'avais aussi montré que le jardin est bien perçu par les Atchouars à l'image d'une forêt miniature, du point de vue de la composition et de la disposition des plantes, de sorte que lorsque les Atchouars ouvrent un jardin, ils ne conquièrent pas sur la nature un lieu ou un site voué à la culture. Il substitue des plantations humaines imitant la forêt à la plantation d'un esprit imitant un jardin. J'avais montré enfin que si l'on peut dire du jardin Atchouar qu'il est un paysage, puisqu'il figure en miniature une forêt du même type que celle qui l'entoure, et qu'il constitue bien en ce sens une transfiguration in situ, non pas tant d'ailleurs d'un morceau de pays que d'un type d'environnement. C'est aussi un paysage d'un genre très particulier, puisqu'il est constamment exposé à disparaître, c'est-à-dire à redevenir le référent dont il est le signe iconique. En effet, les plantes cultivées, dont l'esprit des jardins, qui s'appelle Nungui, a concédé l'usage aux humains, ces plantes sont sous la menace constante de redevenir sylvestres, de sorte que le jardin est toujours en passe de perdre, avec sa fonction de signe, son caractère de paysage, en se confondant avec ce qu'il est censé figurer, autrement dit la forêt. Donc le rapport du jardin à la forêt se donne à voir comme une relation menacée de confusion entre une représentation et ce qu'elle représente, puisque le jardin, espace cultivé par les humains grâce aux plantes de l'esprit Nungui, est une image de la forêt, espace cultivé par l'esprit Chakaim, lequel voit lui-même le jardin des humains comme une forêt empiétant sur ses plantations. De sorte que le jardin en friche, qui redevient forêt aux yeux des Atchouars, est en réalité une forêt qui redevient jardin aux yeux des esprits. Je voudrais à présent examiner d'autres transfigurations in situ de jardins vivriers pour voir si l'on y retrouve cette confusion toujours possible entre le signifiant et le signifié que j'ai mis en évidence dans le jardin Atchouar. J'ai choisi pour cela de rester en Amazonie et de prendre comme élément de comparaison un groupe de trois sociétés voisines appartenant à l'ère culturelle qu'on appelle habituellement du nord-ouest amazonien. Ces trois sociétés sont les Yukuna, les Makuna et les Mirania. Vous avez ici une carte. Vous voyez qu'on n'est pas très loin à l'échelle de l'Amazonie, en tout cas du bloc Jivaro. La carte est là, donc le petit encart ici, on est Le bloc Jivaro est là, vous voyez, à l'échelle de la Amazonie, ce n'est pas grand-chose, c'est un millier de kilomètres. Les Makuna sont sur le rio Piraparana, les Yukuna sont sur le rio, la rivière de Miriti Parana, et les Miranya sont sur le Caqueta. Ils sont à peu près éloignés à 50 km, d'une cinquantaine de kilomètres les uns des autres. Donc ces sociétés ne sont pas situées très loin géographiquement de l'ensemble Jivaro, mais elles présentent néanmoins des différences significatives avec celui-ci. Elles sont localisées pour l'essentiel en Colombie, je parle de l'ensemble du nord-ouest amazonien, avec quelques zones de peuplement au Brésil et au Pérou, et ces sociétés du nord-ouest amazonien partagent un même type d'organisation sociale, bien qu'elles parlent des langues différentes. La forme traditionnelle d'habitat, c'est une grande maison commune qu'on appelle dans l'espagnol de la région une maloca. La plupart des tribus qui composent cet ensemble sont exogames et elles obtiennent leurs épouses dans des groupes qui parlent une autre langue. Donc il y a un bloc significatif de sociétés qui pratiquent l'exogamie linguistique dans lequel on épouse toujours des femmes qui viennent, puisque la résidence est patrilocale, dans des sociétés où les hommes parlent une langue différente. Cette étroite complémentarité des groupes linguistiques du fait des échanges matrimoniaux est renforcée par toute une série d'autres mécanismes intégrateurs qui contribuent, par-delà la diversité des langues, bah évidemment, on est dans des sociétés qui sont polyglottes, puisqu'on parle au moins deux ou trois langues indigènes, sans compter évidemment la langue véhiculaire, qui pour l'essentiel est ici l'espagnol et un peu plus à l'est le portugais. Donc quels sont ces éléments intégrateurs? C'est la mythologie d'abord qui unifie tous les groupes dans une origine commune et qui leur assigne un territoire et une place hiérarchisée en fonction de leur ordre d'apparition dans la genèse mythique. Et c'est là une des grandes différences par rapport à l'ensemble Jivaro dont je parlais au cours des dernières leçons. Les sociétés du nord-ouest amazonien sont en effet hiérarchisées. Elles sont hiérarchisées entre elles, à savoir que les groupes de filiation les plus prestigieux sont ceux qui furent engendrés en premier dans cette genèse mythique et qui sont donc l'aval des fleuves, et puisque la genèse mythique, soit des pirogues, soit des anacondas qui remontent les fleuves en déposant ou en se coupant en morceaux et en déposant des groupes de filiation dans certains sites précis, c'est aussi une hiérarchisation en leur sein, avec des statuts qui sont très marqués, en différence très nette avec l'ensemble Jivaro, avec des chefs de maison, des chefs de maloca, qui ont une autorité relative quand même sur les membres de la maloca, de chamans et puis différents types de spécialistes rituels. Cette hiérarchie a beau être purement symbolique, c'est-à-dire elle n'engendre pas de disparité de pouvoir, de disparité de richesse, elle n'en joue pas moins un rôle important dans la façon dont ces sociétés conçoivent leurs relations entre humains et aux non-humains, et notamment leur idée du végétal, comme on va pouvoir le voir. Ensuite, toutes les sociétés de cette région célèbrent un culte à quelque chose qui est assez difficile à définir, qui s'appelle Yurupari. C'est à la fois une sorte de divinité et en même temps un principe d'organisation rituelle. Ce culte se célèbre lors de cérémonies au cours desquelles on procède aux initiations masculines. Mais l'objectif principal de ces cultes, c'est de renouer le contact avec les héros fondateurs de la civilisation et avec les normes idéales d'existence que ces héros fondateurs ont jadis institué. Donc chaque fois qu'une maloca organise l'une de ces cérémonies, On va inviter des membres de tribus voisines, quelquefois assez, qui sont assez loin, à y participer avec leurs instruments de musique où siègent dans ces instruments, des trompes, des flûtes, l'essence, Uropari, de leur propre groupe de filiation. Donc cette complémentarité des groupes du Nord-Ouest amazonien dans un rite qui, d'une certaine façon, retrace et réinstitue l'étiologie de la totalité qui les englobe, réaffirme ainsi périodiquement l'unité des valeurs qu'ils partagent. Alors, au sein de cet ensemble général du Nord-Ouest amazonien, les Makuna forment un groupe d'environ 900 personnes qui parlent une langue de la famille Tucano-Orientale et donc qui vivent, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le cours inférieur du Piraparana. Les Yukuna sont situés un peu plus bas, un peu plus au sud, sur le cours supérieur du Miriti Parana. Ils sont environ 500 personnes. Et encore une cinquantaine de kilomètres au sud, sur le moyen Caqueta, les Miranya forment un groupe dont l'estimation varie entre 500 et 600 personnes, qui parlent, eux, une langue complètement isolée. Je traiterai ensemble les Yukuna et les Makuna, car ils ont beaucoup de points communs du point de vue des idées qu'ils se font du monde végétal. Et j'aborderai ensuite les Miranya, qui possèdent de ce point de vue des traits sui generis. J'ai mis ici les références dont je me suis servi. Essentiellement, il y en a d'autres, mais ça, c'est les références principales. Pour les Makuna, Luis Cayón. Pour les Miranya, Dimitri Karadimas. Ce sont trois monographies. Et pour les Yukuna, la monographie de Maria Clara van der Hammen. J'ai mis aussi la totalité des références bibliographiques dont je me suis servi dans le cours sur le site, donc ça devrait être accessible soit aujourd'hui, soit demain, si vous voulez vous y reporter. Alors je commence donc par l'ensemble Yukuna et Makuna. Comme chez les Jivaro, les plantes cultivées ont été créées par un héros, un démiurge, et comme chez les Jivaro aussi, ces plantes ont disparu une première fois avant d'être à nouveau disponibles et d'exister sous la forme de personnes. Le mythe de Kanuma, qui est un mythe Yukuna, donne une bonne idée de ce processus. En effet, dans toute cette région du nord-ouest amazonien, on raconte que les femmes possédaient jadis le pouvoir politique et le pouvoir rituel, et notamment le pouvoir de jouer des instruments de musique du rite de Yurupari, et qu'elles le perdirent, ce pouvoir, lorsque un héros culturel leur vola les flûtes sacrées nécessaires à cette cérémonie de Yurupari. En représailles, les femmes s'enfuirent en emportant les plantes cultivées qu'elles avaient reçues lors d'une première genèse. Et chez les Yukuna, le héros culturel, le voleur des flûtes, s'appelle Kanuma. Et c'est ainsi qu'il parvient à récupérer les plantes cultivées. Donc je vous donne un résumé, hein, bien sûr, de ce mythe qui est très long, tel qu'il est rapporté par Maria Clara van der Hammen. Après le départ des femmes, Kanuma vivait de fruits de cueillette. Et il prit diverses femelles animales comme épouses, mais aucune ne pouvait lui préparer de la nourriture avec des plantes cultivées. Après diverses péripéties, il finit par épouser la fille cadette de Heichu. Heichu, c'est un héros civilisateur aussi. Et cette fille cadette s'appelait Maerero, c'était la mère des poissons, donc un esprit qui contrôlait la destinée des poissons, si vous voulez. Il s'ensuit divers épisodes dans lesquels Kanuma se révèle incapable d'indiquer à sa nouvelle épouse où elle doit aller récolter le manioc, ou encore des ignames. Dans le premier cas, par exemple, il lui dit « Voilà, le jardin de manioc est là, et elle va là et elle ne voit qu'un chablis, donc une clairière provoquée par la chute d'un arbre. » Donc là où Kanuma, lui, voit un jardin de manioc, elle ne voit qu'un chablis, une clairière. Elle demande où aller récolter des ignames. Kanuma lui dit « Tu suis les gens de Mamaloka, et ils vont en forêt Et là, au lieu de récolter des ignames, les gens de Somaloka recueillent des ignames sauvages ou des feuilles d'une plante sylvestre qu'ils appellent de la coca. Alors évidemment, la femme se moque de son mari en disant « mais ça, ce n'est pas des plantes cultivées ». Et elle lui dit « mon père a toutes les plantes cultivées ». Et elle va donc chez son père, Heichu, pour apporter successivement dans la maison, dans la maloka, de kanuma, du manioc, des fruits de chonta en particulier, du palmier de chonta, de la coca, des ananas. Mais les gens de Kanuma n'arrivaient pas à cultiver ces plantes. Finalement, Maihiro informe Kanuma que ses propres sœurs viendront le lendemain planter du manioc, mais qu'il ne faut pas les regarder, qu'il ne faut pas leur parler. Et c'est ce qui se produit, donc les sœurs de Maihiro arrivent et elles se plantent elles-mêmes autour de la maloka, et c'est pour cela, dit le mythe, que le manioc est une personne. Mais ces femmes manioc étaient très bavardes, se moquent de Kanuma, qui était resté dans la maison, et qui, furieux, finit par sortir de la maison, et à ce moment-là, elle s'enfuit, et c'est pour cela, précise le mythe, que le manioc ne vient bien que sur le pourtour du jardin, s'enfuit vers la la périphérie du jardin, puis elle se transforme en plant de manioc. Un peu plus tard, Kanuma est invité par son beau-père à le visiter pour qu'il lui donne des semis de coca. Le coca joue un rôle cérémoniel, rituel et social, d'ailleurs très important dans les sociétés du nord-ouest amazonien. Mais Kanuma préfère envoyer son frère cadet à sa place. Donc Heichu, le père de Maihiro, reçoit Maihiro et le frère cadet de Kanuma, et il lui donne à consommer beaucoup de coca, ce dont il n'avait pas l'habitude. Et donc le frère cadet devient tout étourdi, et il dit à sa fille, tu vas le ramener dans la maloka de Kanuma, tu vas lui donner à manger, en fait c'est une métaphore sexuelle, tu vas faire l'amour avec lui, et tu vas l'abattre au milieu du jardin. C'est ce qu'elle fait, et le frère de Kanuma explose au milieu du jardin. De sa poitrine, de ses jambes et de ses bras naissent les plantes coca. Le père de Maihiro continue ensuite à envoyer des gens qui se transforment les uns après les autres en palmiers de chonta, en ananas, en arbres fruitiers ou maris, etc. Donc on voit qu'après cette la première disparition des plantes cultivées, celles-ci reviennent sous la forme de personnes qui sont toutes des frères ou des sœurs de Maihiro, la mère des poissons, et qui sont donc des consanguins ou des consanguines, des cultivatrices. Comme c'était le cas, si vous en souvenez, chez les Jivaro, à l'exception de la coca, qui est maintenant cultivée par les hommes et qui est, assez logiquement, un consanguin du héros culturel, puisque c'est son frère cadet. Donc, dans une grande partie du piémont amazonien, on le voit, domine ainsi cette idée que les plantes cultivées sont des personnes métamorphosées et que celles-ci sont des parents consanguins des femmes qui s'en occupent, par contraste avec le lien des hommes aux animaux qu'ils chassent, qui est conçu comme un rapport d'affinité, un rapport d'alliance de mariage, un rapport entre beaux-frères ou entre beaux-parents, s'il s'agit des maîtres du gibier qui sont conçus comme les parents des animaux. Or, ceci a des conséquences sur la distribution et la disposition des plantes dans le jardin, disposition qui reproduit la disposition des lieux dans la maloka, dans la grande maison commune. Alors, on va d'abord voir cette dernière. C'est une photo, mais la plupart des malokas du nord-ouest amazonien ont cette même forme architecturale. Celle-ci, c'est une maloka yukuna. Et le plan, elles sont assez souvent aussi organisées selon ce même plan, qu'elles soient plus ou moins rondes ou plus ou moins ovoïdes. Donc là, on prend l'exemple des Yucuna. Comme pour les autres peuples du nord-ouest amazonien, donc, la maloca, la maison, la grande maison commune, est une image réduite du cosmos. Et c'est un dispositif qui a beaucoup retenu l'attention des spécialistes de ces sociétés, sur lesquelles existe une importante littérature. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, faites-moi confiance, c'est un modèle réduit du cosmos. Toutes les parties de la maison renvoient à des éléments du ciel, il y a des rivières souterraines, etc. Enfin, bon, il y a une immense littérature. Donc, voilà. Moi, je voudrais surtout dire un mot de la disposition spatiale de la maison. Cette disposition spatiale, elle est organisée selon une série de contrastes entre les affins et les consanguins, masculins et féminins, entre les hommes et les femmes, entre les aînés et les cadets, entre les espaces rituels et les espaces profanes. Vous avez donc un axe nord-sud qui, malheureusement, ici, est indiqué, en fait, de gauche à droite. J'ai repris le schéma qu'avait fait Van der Hammen, qui divise la maison entre un espace masculin qui est à l'ouest et un espace féminin qui est à l'est. Cette disposition, avec une assignation des sexes aux points cardinaux, est assez classique dans la région. Elle peut varier, par exemple, chez les Makuna, c'est l'inverse. Ce sont les hommes ou l'espace masculin qui est à l'est et l'espace féminin qui est à l'ouest, chacun avec sa porte d'entrée. Celle-ci est un peu décalée. Chaque famille nucléaire occupe un site sur le pourtour de la Maloca. Le maître de maison, qui est ici, étant toujours situé face à la porte principale. Et selon que les liens de parenté de chaque famille avec le maître de maison, les familles seront situées sur le flanc sud pour les consanguins, donc ici, et sur le flanc nord pour les affins. Et de même, les fils cadets sont situés au nord, les fils aînés au sud. Et enfin, une division concentrique sépare l'espace domestique, l'espace d'habitation. Là, ce sont des hamacs qui sont suspendus. C'est là qu'on fait aussi la cuisine. Et puis l'espace central, qui est un espace rituel, où se tiennent les danses, où certaines des cérémonies de Yorupari se déroulent, etc. Le jardin est organisé à partir des mêmes catégories. Une partie antérieure masculine, une partie postérieure féminine, un centre ritualisé et une périphérie domestique avec un bas féminin et un haut masculin. Voilà un modèle du jardin, toujours chez les Yucuna, dessiné par Van der Hammen. Dans l'ordre des plantations, c'est le manioc qui vient en premier, qui est planté en tâche, qui est une plante féminine cultivée par les femmes. Donc tout ça, c'est du manioc, vous voyez. Là, ici. Ensuite, vient la coca, qui est une plante masculine manipulée par les hommes et qui est plantée selon un schéma en croix, ici, au centre, donc dans l'aspect, dans la partie, si vous voulez, la plus ritualisée du jardin, comme le centre est la partie la plus ritualisée dans la maison. Ce schéma en croix est une référence au corps du frère cadet de Kanuma, à partir duquel jaillit la coca. Il explose, il tombe, les bras en croix, les jambes écartées, et c'est donc cette plantation de coca qui est la représentation de ce frère cadet. Plusieurs mythes assimilent la coca a un os, qui est un élément masculin, de sorte que l'on peut voir le jardin comme une sorte de corps animal, ou même humain. Au centre, les plantes coca forment le squelette, entouré des taches de manioc, qui symbolisent la chair et le sang qui sont cultivés par les femmes. Les autres plantes complètent en somme le mobilier ontologique du jardin. L'ananas, par exemple, est planté en rangées régulières. Ça, c'est des ananas. Hein. Et là aussi. Qui délimitent un espace séparatif entre la coca et le manioc, qui est en principe équivalent à l'aire de danse intermédiaire dans la maloca entre l'aire rituelle centrale et la périphérie domestique. C'est donc équivalent à ça. Les palmiers Chonta, c'est là, hein, sont situés à la périphérie, ou près de l'entrée du jardin, de même qu'ils sont plantés juste à l'extérieur de la maloca, à côté de la porte principale. Et on le voit ici, vous voyez, ils sont là, tout autour, et on le voit d'ailleurs même sur les photos de la... Auparavant, ça c'est des palmiers Chonta qui sont tout autour de la maison. L'arbre fruitier Umari, qui est un Poraceiba sericea, dont le mythe relate qu'il est un frère du manioc, des femmes manioc, est planté à l'avant du jardin, tandis que d'autres plantes, comme le caïmitier ou la guaba, qui sont des ingas, sont mélangées avec le manioc, dont elles sont dites des compagnons. Donc, dans sa composition réelle, dans la disposition des plantes, le jardin reflète ainsi tout à la fois les opérations mythiques qui l'ont constitué tel qu'il est, et l'organisation spatiale des réseaux sociaux dans la maloca. On a donc au centre un groupe de frères, au centre du jardin, à l'origine Kaduma et son frère cadet, la coca, lesquels obtiennent des épouses d'un autre groupe qui sont venues dans la maison. C'est le manioc, ce sont les femmes manioc qui se sont plantées dans le jardin. La résidence est toujours patrilocale, je l'ai dit tout à l'heure. Les frères des femmes manioc, les palmiers, Chonta, l'ananas et l'oumari, se situent sur le devant du jardin, tandis que certains arbres fruitiers, qui sont des compagnons des femmes manioc, se situent à la périphérie, c'est-à-dire à la distance sociale maximale, puisque d'une certaine façon, ils sont en compétition avec le noyau de frères pour les mêmes femmes. Donc, la disposition du jardin, c'est un modèle réduit de la structure sociale et des réseaux de relations sociales au sein de ces sociétés du nord-ouest amazonien. Chez les Makuna, donc ça c'est le modèle Yukuna, chez les Makuna, la disposition des plantes est analogue. Je cite Louis Cayon à ce propos, donc ouvrez les guillemets, le jardin possède chez les Makuna une distribution spatiale masculine et féminine qui a les mêmes associations que les espaces de la maloca, à savoir un centre masculin et une périphérie féminine. La coca plantée en forme de croix au centre du jardin, donc chez les Makuna aussi, la coca est plantée en forme de croix, le divise en quatre parties correspondant aux points cardinaux, ce qui lui donne ainsi les coordonnées du cosmos. Autour de la coca, poursuit Cayon, sont disposés les arbres d'ouvilla, c'est le puruma secropiefolia, et entre l'ouvilla et la coca sont plantés les ananas en rangée, délimitant des lopins de manioc. Le mythe, d'ailleurs, d'origine des plantes cultivées chez les Makuna est très très proche aussi du mythe Yukuna. Ce sont des gens qui parlent des langues différentes. Hein. Le héros culturel qui s'appelle Iba se nourrit aussi au début de fruits sylvestres, ainsi que ses parents dans la Maloka, lesquels sont des animaux. Enfin, ils sont nommés comme des animaux. Ce sont des animaux-personnes, avant la spéciation que le mythe instaure entre les humains et les animaux, jusqu'à ce qu'il épouse une femme aquatique, Yawira, qui est la fille de l'anaconda, qui lui amène ses sœurs, lesquelles se métamorphosent, elles aussi, en plants de manioc. Yawira amène ensuite la coca et le tabac, puis le reste de ses frères qui se convertissent tous en une espèce ou en une autre de plantes cultivées. Chez les Miranias, enfin, la coca est aussi plantée au centre du jardin, j'y reviendrai plus longuement tout à l'heure, mais non pas en croix, mais en rangées plus, parallèles, qui sont assimilées à la colonne vertébrale du jardin, écrit Dimitri Karadimas. Et comme on le verra plus tard, ce rapport explicite entre coca et squelette indique chez les Miranias une anthropomorphisation du jardin qui est beaucoup plus nette que dans les groupes voisins. Voyons à présent le rapport entre le jardin et la forêt. Dans les trois groupes, chez les Yukuna, les Makuna et les Miranias, il est impératif de négocier avec les esprits de la forêt la permission d'ouvrir un essar. Et c'est une tâche, cette négociation, qui est dévolue au chaman du groupe local qui va offrir de la coca au maître des lieux. En effet, tous les éléments du monde, tous les êtres, tous les sites ont un maître avec lequel il faut compter lorsque on entreprend une activité quelconque. Chez les Yukuna, qui, on s'en souvient, ne dépasse guère les 500 individus, le nombre de maîtres est considérable, de même que la diversité de leurs apparences et de leurs fonctions, au point qu'on peut penser qu'il y a beaucoup plus de maîtres qu'il n'y a d'humains. Ce qui est en général d'ailleurs une caractéristique assez commune de beaucoup de sociétés amazoniennes, c'est un monde qui est pauvre en humains et qui est riche en non-humains, et beaucoup des interactions se passent de ce fait entre humains et non-humains plus qu'entre les humains, bien que celle-ci évidemment est court aussi. Alors les maîtres Yukuna sont caractéristiques des esprits animistes tels que je les ai définis autrefois. Je rappelle qu'en régime animiste, la plupart des objets du monde sont animés par une intériorité que les Yukuna appellent une pensée et qui est spécifique à chaque classe d'objets, dont les humains. Les maîtres veillent au bon exercice de cette pensée, au bon déroulement des facultés que cette intériorité rend possible, pour chaque famille d'existants dont ils ont la charge. Alors, les humains, lorsqu'ils consomment une plante ou un animal, absorbent ipso facto son intériorité, sa pensée, en dehors, en plus de son corps. Il faut donc demander l'accord du maître de l'espèce pour pouvoir absorber cette intériorité sans danger, faute de quoi on encourt le courroux de ce maître et on encourt sa vengeance sous la forme de maladies, lesquelles maladies sont en quelque sorte des subjectivités de non-humains mal digérées. Et en fait, une grande partie du travail du chaman consiste à rendre digestibles ces subjectivités des non-humains qu'on absorbe avec leur corps animal ou végétal. Il en va de même chez les Makuna, hein, qui ne sont guère plus nombreux que les Yukuna. Eux, ils appellent armes les principes actifs que chaque espèce a reçu en partage lors de la genèse mythique, principes qui déterminent les habitudes alimentaires et les pratiques reproductrices de ses membres. Chaque ensemble d'armes, qui est décrit par les Makuna comme des échardes, comme des plumes, comme du venin, comme de la salive, etc., objective ainsi un faisceau de disposition biologique et de disposition éthologique qui sont réputés intrinsèques à l'identité d'une espèce. Et avant de consommer toute nourriture végétale ou animale, les Makuna chantent donc mentalement une incantation qui est destinée à la décontaminer, à lui faire perdre ses lambeaux d'intériorité qui sont encore attachés à sa substance physique, de façon à la dépouiller de ses principes nocifs et à renvoyer ses principes vers le lieu de résidence collectif de l'espèce où les membres de cette espèce vivent sous le contrôle de leur maître. Donc les chamans négocient avec les esprits qui contrôlent les plantes sylvestres, dont beaucoup d'ailleurs sont des espèces d'hypostases d'une espèce particulière. Par exemple, une espèce de palmier sera le capitaine de capitane, c'est le terme qu'on emploie pour désigner les fonctions d'autorité dans cette région, terme espagnol, sera le capitaine de tous les palmiers. Et ils font cela, cette négociation, les chamans, afin d'obtenir l'autorisation pour les membres de leur maloka d'ouvrir un essar et donc d'empiéter sur le domaine que les esprits maîtres de la forêt contrôlent. Alors évidemment, l'une des difficultés, c'est qu'il est interdit de mentionner les détails du pacte qu'un individu a noué avec des esprits. C'est très souvent le cas en Amazonie, on ne peut pas révéler les visions que l'on a eues lorsqu'on a eu des contacts avec un esprit, de sorte qu'il est très difficile d'obtenir des informations détaillées sur la nature même des tractations que les chamans mènent avec les esprits de la forêt au moment d'ouvrir un dessar. Chez les Miranya également, il convient d'amadouer les esprits avant de desserter, tout à la fois les esprits qui protègent les arbres et ceux qui contrôlent les serpents, puisque ces derniers, c'est aussi une constante de la région ou dans d'autres régions de la zone tropicale aussi, représentent un danger permanent lors des abatis où on fourrage avec les sables d'abatis dans les fourrés et on court le risque de se faire mordre par des serpents et par toutes sortes d'autres insectes d'ailleurs dont la morsure peut survenir dans les mêmes circonstances et peut être parfois fort désagréable. Enfin, chez les Yukuna, il est aussi impératif de procéder à une dévolution formelle du jardin au maître de la forêt au terme de son cycle productif, environ, disons, 3 ans après sa mise en culture. Et c'est encore le chaman qui va officier pour cette dévolution. Alors, par contraste avec le cas Achuar, qu'on a vu lors des dernières leçons, dans lequel le jardin est tout à fait ostensiblement une transfiguration opérée par les humains de la plantation d'un esprit, les jardins Yukuna et les jardins Makuna ne sont pas à proprement parler des imitations de la forêt qui seraient perçues comme le jardin des maîtres des plantes sylvestres, puisque la végétation de la forêt n'est guère présentée comme étant cultivée par eux. Alors il y a bien remplacement d'une végétation contrôlée par les esprits, par une végétation contrôlée par les humains, végétation qui est elle-même faite de héromitiques transfigurés, puis d'évolution formelle à la juridiction des esprits d'un espace qui a été temporairement détourné, disons, de ses finalités propres. Mais néanmoins, il n'y a rien dans la littérature ethnographique sur les Yukuna et sur les Makuna qui permettent d'inférer que le jardin est une image miniature de la forêt, comme c'était le cas chez les Achuars. Les indications que donnent les mythes et les rites sont plutôt que le jardin est assimilé à un organisme vivant sui generis, avec son ossature, avec ses fonctions distribuées, avec ses flux de substances, et que cet organisme est lui-même une image de la maloka, de la maison commune, comme figuration du monde en réduction. Alors voyons maintenant plus précisément ce qu'il en est chez les Miraniens, où cet enchâssement d'images paraît beaucoup plus manifeste que chez les Yukuna et chez les Makuna, et où l'on trouve également, comme chez les Atchouars, l'idée que la forêt est la plantation des esprits. Commençons par ce dernier point. Chez les Miraniens, écrit Dimitri Karadimas, je cite, « La forêt n'est en fait qu'une plantation, il le dit tout à fait explicitement, sous la responsabilité d'un maître, comme le seraient les plantations chez les humains. » Fermez les guillemets. Dans les faits, toutefois, il faut distinguer entre deux types de forêts. La forêt proche de la maison, que j'ai appelée, à propos dans le cas de Chouard, la forêt verger, et la forêt lointaine. Et chacune de ces forêts est habitée par des animaux différents et sous le contrôle de maîtres différents. La forêt proche, elle est fréquentée par le petit gibier qui est venu se nourrir des produits du jardin, des prédateurs du jardin tout simplement, et venu se nourrir aussi des produits des anciennes parcelles retournées en friche qui sont à proximité. C'est un espace domestique, c'est un prolongement de la maloca, et les animaux qui s'y trouvent peuvent donc être chassés sans demander d'autorisation au maître, d'autant qu'ils sont d'une certaine façon déjà nourris, nolens volens, par les humains, bien qu'involontairement. Donc, en somme, il s'agit presque d'un élevage. Et cette forêt verger est considéré comme le jardin du héros créateur, peuplé d'espèces animales dites sans odeur, c'est-à-dire qui sont tout simplement des transformations des espèces cultivées apportées par le démiurge ou des transformations ou des métamorphoses de fruits tombés à terre. Autrement dit, les fruitiers de la forêt verger appartiennent à un esprit qu'on appelle la grand-mère des animaux, qui est l'épouse du maître des animaux, lequel règne sur les animaux, ce dernier, de la forêt profonde. Donc les pécaris à lèvres blanches sont issus des ananas de la grand-mère des animaux, qui sont des broméliacées, ce qu'elle voit, elle, comme des ananas, mais qui sont en fait des broméliacées sauvages, qu'elle cultive comme des ananas dans cette forêt verger qui entoure la maison. Les singes attelles sont des transformations du fruit de Linga edulis, tandis que le singe laineux est une transformation d'une autre espèce d'Inga. Donc la chair du gibier qui est chassé dans la forêt proche, dans la forêt verger, est ainsi végétalisée. C'est-à-dire qu'elle est moins dangereuse que la chair du gibier qui est chassé dans la forêt profonde, qui, elle, est la chair d'une personne, imprégnée de son intériorité, donc porteuse de contamination. Et encore sous la juridiction tatillonne, j'allais dire, du maître du gibier de la forêt profonde, et il faut donc composer avec lui. Donc, du point de vue de la genèse, les animaux chassés sont des transformations de végétaux qui sont eux-mêmes issus du corps du démiurge créateur. Voyons maintenant ce qu'il en est de la forêt profonde. Je l'ai dit tout à l'heure, la forêt profonde, elle, elle est sous la juridiction des maîtres des animaux. En fait, il y en a plusieurs. Et elle est sous la juridiction aussi des prédateurs qui ont, vis-à-vis des animaux, le même type de comportement que les maîtres de Maloca vis-à-vis de leurs dépendants. Les prédateurs, c'est toujours la même trilogie en Amazonie, c'est le jaguar, l'anaconda et l'aigle à harpie qui sont les plus grands prédateurs dans les différents étages écologiques de cet écosystème. Le maître des animaux principal est aussi connu comme le maître de la forêt et il est accompagné par deux frères, l'un qui s'appelle le Père des Singes et un autre qui s'appelle Chitia Guario, pas de traduction, et à eux trois, ils se répartissent la surveillance des différentes strates. Le maître de la forêt, qui s'appelle Mei, veille sur le gibier du sol, tandis que le père des singes évolue dans la canopée et veille sur les animaux de cet étage, et que Chitia Guarillo, qu'on décrit comme velu, mais doté aussi de grandes ailes, a pour juridiction les animaux ailés. Et la principale nourriture de ces trois esprits, bien sûr, ce sont les humains qu'ils capturent lorsque les humains s'aventurent dans la forêt profonde sans précaution et sans avoir fait d'offrande au maître des gibiers. Donc ces trois esprits qui sont, disent les Makuna, gigantesques, d'apparence plus ou moins simienne, très velue, et ils sont associés à certains arbres de la forêt qui forment leur verger et qu'ils protègent, car les fruits de ces arbres sont mangés par les animaux dont ils ont la charge. Donc ils cultivent d'une certaine façon le fourrage des animaux dont ils ont, qui sont leurs animaux apprivoisés. Donc la forêt lointaine, dans laquelle, vous l'aurez compris, les Miranias n'aiment guère faire des incursions, peut ainsi être vu comme le jardin des animaux dans lequel ils évoluent à l'identique des humains dans leur propre jardin. Certaines variétés d'espèces cultivées sont d'ailleurs considérées comme des variantes humanisées de plantes sylvestres qui proviennent du jardin des animaux. Et c'est donc au rebours du mythe Aguaruna que j'avais exposé lors d'une précédente leçon, dans lequel les plantes cultivées, suite à une malédiction, se transformaient en plantes sylvestres botaniquement proches. Les animaux utilisent ces plantes sylvestres exactement comme les humains utilisent leurs plantes cultivées. Par exemple, une plante sylvestre du genre Virola, que les Miranias utilisent comme poudre à priser, est caractérisée comme le tabac des animaux. Et il faut demander l'autorisation pour l'accueillir à son maître, qui est l'aigrette du Ponant. Il en va de même avec une autre plante de cueillette qui est définie comme la coca des animaux. Autrement dit, lorsque les humains abattent un essart pour créer un jardin, ils détruisent une partie du jardin des animaux. Et donc, ils doivent s'attendre à une vengeance pour cette déprédation. Et c'est pour cela que les offrandes de coca et de tabac sont faites au maître de la forêt. De ce point de vue-là, donc, la situation Mirania est analogue à la situation Hatchoir. Les humains substituent leurs plantations aux plantations des esprits lorsqu'ils ouvrent un jardin, mais dans le cas Mirania, l'opération est beaucoup plus risquée parce que la vengeance des esprits menace, alors que dans le cas Hatchoir, il n'y a pas vraiment de vengeance de Shakaim lorsqu'on ouvre un jardin. Au contraire, il conseille les humains sur les lieux les plus appropriés pour ouvrir un essart. Alors passons maintenant à la façon dont les Miranias se représentent non plus la forêt, mais le jardin. Comme chez les Yukuna et comme chez les Makuna, la création des plantes cultivées se passe en deux temps. Le démiurge commence par faire advenir les plantes du jardin en y pensant, c'est-à-dire en formant leur concept, pourrait-on dire, en termes philosophiques, et en incorporant ensuite ce concept. Tout se passe fort bien pendant un temps, jusqu'à ce que les humains commencent à récriminer contre le démiurge, à papoter, à faire courir des médisances à son propos. il n'est pas content et il décide alors de partir en emmenant avec lui, évidemment, les plantes cultivées. À la suite de nombreuses péripéties, il redonne les plantes cultivées aux humains, mais il décide en même temps de créer pour chaque plante un maître qui devra veiller sur elle. Il y a donc à présent, selon ce que dit le mythe, qui les mentionne individuellement pour chaque plante, plus de 80 esprits maîtres des plantes, dont 30 maîtres pour le seul tabac, certains décrits avec beaucoup de précision. La plupart de ces maîtres des plantes cultivées sont des esprits qu'on pourrait appeler punisseurs, c'est-à-dire qu'ils sont rendus responsables des maux qui affectent les humains s'ils se comportent mal dans les jardins. Par exemple, alors ce sont pour la plupart ces maîtres, ils ont la forme d'un insecte. Le scarabée, par exemple, Tiéoï, qui non seulement mord, mais peut uriner dans l'œil de quelqu'un lorsqu'il est endormi pour le punir, ce qui le rend aveugle, ou bien le scarabée coprophage, qui peut pénétrer par l'anus et griffer l'intérieur de l'estomac, etc. Donc c'est des esprits punisseurs désagréables qui sont à l'origine des maladies qu'on appelle des maladies du jardin, qui sont les maladies en fait les plus communes, qui sanctionnent non seulement un mauvais traitement des plantes cultivées, mais aussi tout manquement en fait à la morale publique. Certains des esprits sont de simples auxiliaires, par exemple, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fonction de rétribution ou de vengeance. Le fourmilier nain aide ceux qui désirent semer rapidement leur jardin, car il aide à faire tomber les arbres ainsi qu'à ouvrir les trous pour les boutures. C'est commode. Toutefois, ces esprits-là sont très minoritaires. Et les plus communs sont bien les maîtres responsables des maladies dites du jardin, qui, donc, je l'ai dit, correspondent à des insectes fouisseurs, sectionneurs, perceurs, urticants, que l'on trouve effectivement dans les jardins. Il faut être prudent quand on fourrage dans les plantes du jardin, car il arrive souvent qu'on tombe sur des choses qui font mal. Donc cet enchevêtrement complexe entre les plantes cultivées, leurs maîtres punisseurs et les dégâts qu'ils font subir à l'intégrité physique des humains indique ainsi qu'il y a, dans l'esprit des Miranias, peut-on penser, une association étroite entre la plénitude des jardins et l'état du corps de ceux qui le cultivent. Mais en fait, cette association va bien au-delà, puisque c'est le jardin tout entier qui peut être vu comme un corps, comme le corps du démiurge qu'il a créé. Alors, ça se vérifie dans plusieurs caractéristiques. D'abord, dans la disposition des plantes, avec, comme on l'a vu aussi chez les Yukuna et chez les Makuna, les rangs de coca au centre, qui sont assimilés tout à fait explicitement à une colonne vertébrale, ils sont appelés la colonne vertébrale du jardin, et les autres plantes autour qui forment la chair et le sang de ce macro-organisme. Ça se vérifie aussi dans les représentations au sujet du manioc, qui est la plante la plus répandue dans le jardin. Selon les Miranias, en effet, le manioc serait un être qui porte trace du corps du démiurge. Les analogies, font-ils remarquer, sont nombreuses. Par exemple, les feuilles digitées du manioc sont composées de folioles qui ressemblent aux doigts d'une main. Il y en a parfois cinq, il y en a parfois plus. Les cicatrices foliaires sur la tige centrale sont appelées les paupières de cette plante et à partir desquelles, par un œil, donc, une autre plante peut renaître sur une bouture plantée dans le sol, bouture dont les racines sont appelées sa portée, comme pour un mammifère. Le temps de maturation des tubercules de manioc oscille entre 7 et 12 mois après la plantation de la bouture, et le temps moyen étant d'environ 9 mois, ce qui est explicitement comparé à la durée de gestation d'un fœtus humain. De ce fait, les femmes iraniennes voient moins les plants de manioc à l'instar de leurs propres enfants, comme c'était le cas à propos des femmes atchouars, que comme des enfants qu'elles ont la charge d'élever et dont elles veillent à la reproduction. En somme, elles ont un rôle de sage-femme et de nourrice plutôt que de mère. Cette relative prise de distance vis-à-vis du manioc est compréhensible si l'on songe que le jardin est surtout une vaste métamorphose du corps du démiurge, puisque les plantes cultivées proviennent à l'origine des différents morceaux de sa personne. Et comme l'écrit Dimitri Karadimas, que je me fonde pour cette analyse des Miraniens, maltraiter les espèces du jardin revient à maltraiter la personne du démiurge. Alors on comprend qu'il puisse vouloir se venger en confiant cette vengeance aux esprits maîtres des plantes cultivées, qui sont à la source de la plupart des maladies affectant le monde humain, le corps des humains. Donc il y a un parallélisme entre le jardin vu par les humains comme le corps morcelé du héros créateur et le corps humain vu par le héros créateur comme une sorte de jardin dans lequel il peut lâcher ses insectes ravageurs pour faire des dégâts qui sont appelés les maladies du jardin. Donc, en conclusion, si l'on récapitule, comme je l'ai fait dans ce tableau, les conceptions du jardin et de la forêt que j'ai passées en revue dans les quatre sociétés amazoniennes au cours de ces dernières leçons, on constate que le jardin est toujours une transfiguration in situ d'autre chose que de lui, soit de la forêt, soit du corps d'un démiurge, soit d'une maison microcosme conçue comme un organisme. C'est le cas chez les Yukuna et chez les Makuna. Dans tous les cas, le rapport entre le jardin et la forêt et entre les plantes cultivées et les plantes sauvages ne s'exprime pas sous la forme d'une opposition entre le domestique et le sauvage ou entre la culture et la nature, mais sous les espèces d'une série complexe de transformations dans laquelle des personnes se métamorphosent en plantes, des corps divins se métamorphosent en jardins, des corps humains sont traités comme des plantes, des animaux sont des végétaux transformés. Bref, un mouvement de coulisses permanent entre macrocosme et microcosme, entre types de milieux et entre catégories ontologiques. Mouvement qui, je dois le dire, offre un aperçu vertigineux de la richesse de la pensée que les populations de cette partie du monde ont su développer à propos des échanges entre les différentes communautés biotiques. Alors, est-ce qu'on peut parler ici de paysage, puisque c'était au fond notre point de départ? Si on admet ma proposition de considérer comme paysage une transfiguration in situ, c'est-à-dire un site aménagé afin, entre autres fonctions, de servir de signe iconique à une réalité différente de ce qu'il représente matériellement, alors il ne fait aucun doute que les jardins de ces quatre populations sont des paysages. L'idée de transfiguration est manifeste. Elle est manifeste dans les quatre exemples et elle est très explicitement formulée pour les jardins atchouars et pour les jardins Miragna. Dans ces deux derniers cas, en outre, on observe une atténuation de l'écart entre le signe et le référent, une atténuation qui convertit le paysage en un jardin ambigu. Dans le cas Hatchoir, je l'ai signalé, la plantation d'un esprit imitant un jardin est remplacée par des plantations humaines imitant la forêt, mais ces plantations sont sous la menace constante d'une disparition soudaine. Si les cultivatrices déplaisent à l'esprit des jardins Nongui, disparition qui, de toute façon, finira par se produire lorsque le jardin sera abandonné et que la distinction entre l'image et ce qu'elle représente, eh bien, ne sera plus opératoire. Le jardin, alors, aura perdu sa fonction de paysage puisqu'il sera devenu une véritable forêt. Dans le cas Miragna, des plantations d'esprits imitant un jardin sont remplacées par des plantations humaines issues du corps d'un autre esprit, mais ceux qui les plantent sont sous la menace constante, non pas de voir les plantes cultivées disparaître, mais de voir leur propre corps traité comme un jardin par les délégués de cet esprit, c'est-à-dire d'être démembré, percé et découpé à l'instar du démiurge qui est à l'origine des plantes cultivées. Là encore, l'ambiguïté règne en maître. La transfiguration initiale se paye du risque de voir les humains eux-mêmes se transfigurer, on pourrait dire, à leur corps défendant, et donc de voir les producteurs de signes devenir eux-mêmes des signes de ce qu'ils avaient figuré en édifiant leur jardin. Alors on verra lors de la prochaine leçon, à travers des exemples non plus amazoniens mais mélanésiens, si cette mise en abîme du jardin-paysage est caractéristique ou non de l'Amazonie.